Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Le son va bien aux histoires et l'histoire peut se faire par les sons. En attendant, l'émission de vendredi prochain, consacrée aux histoires de sons des auditeurs, à vos propres histoires vraies de sons, que l'équipe de l'atelier recueille par mail ou téléphone depuis plus de 3 semaines, voilà ce soir comme un premier volet, un avant-goût. Dans un instant, vous entendrez parler du studio mobile, un studio itinérant appelé à se déplacer pour vous permettre de vous enregistrer, d'enregistrer une interview ou un dialogue avec l'un de vos proches. C'est tout nouveau, c'est un projet indépendant. Et puis, il y a le son de l'histoire. On entendra la reconstitution de l'ambiance sonore de Paris au XVIIIe siècle. C'est une reconstitution quasi scientifique menée par une équipe de l'Université Lyon 2. Et en fin d'émission, l'histoire vraie de son du grand rock critique américain Gail Marcus. Ce sera pour terminer. Voilà le programme, je vous laisse aux côtés de Thomas Baumgartner.
Bonsoir à vous. On ne se rend pas compte à quel point un indicatif de radio qui commence habituellement une émission, qui annonce une rencontre, un accompagnement, est avant tout une promesse. Une promesse renouvelée tous les jours ou toutes les semaines, une promesse à épisode, la promesse d'autres promesses, quoi, comme celui-ci, la ritournelle de Sébastien Tellier. C'est pour ça que les indicatifs de radio restent profondément enfouis en nous, malgré nos oreilles, malgré notre volonté, ils forment la bande originale de nos vies, de nos films quotidiens. Et quand ils s'arrêtent, en fait, ces indicatifs de radio, parce qu'on supprime une émission par exemple, ils restent prêts à bondir, à réveiller tout frais souvenirs de voix et souvenirs de vie. L'indicatif de radio n'est qu'au présent, à la vérité. Et ça, malgré les décisions de suppression, aussi brutales, autoritaires et absurdes soient-elles, that's life, doit-on dire désormais, oui, mais non, on ne décide pas comme ça ce qui est ou ce qui n'est pas la vie, ce qui continue ou ce qui s'arrête, parce que c'est trop tard. Le bien est fait. Les ondes sont lancées et rien n'empêchera qu'elles rebondissent à nouveau au moindre frémissement de l'indicatif. Ce soir, on parle d'histoire dans tous les sens du terme, dans un atelier du son très intérieur. Bienvenue à vous.
Months short of 20 years, so he knew it was his last tour and he was going to go home for good.
Your dad was very duty bound. If he was passed over to go out in the field, he'd get animated about it. And I was with your dad the day he was killed. We were going to travel through the province and make 3 stops. There was a winding road, and as we were coming down the hill, which was the most dangerous spot, I turned and faced your father. We smiled and gave each other a thumbs up. We made it. And the next thing I knew, I was thrown out of my seat and I was seeing sky. I realized then, my God, we've been blown up.
Alors là, peut-être que votre oreille reconnaît sur cette ritournelle de Sébastien Tellier un autre son qui vient d'ailleurs, un son qui vient des États-Unis, le son d'une émission assez géniale, l'émission américaine Story Corps, dont l'initiative est née quelques mois après le 11 septembre 2001. Story Corps qui invite les Américains à se raconter, à s'interviewer entre eux, entre amis, en famille. Story Corps construit comme ça depuis plus de 10 ans un récit collectif des États-Unis. Et ça fonctionne notamment avec des studios mobiles qui s'annoncent dans telle ou telle ville. Et voilà que sur ce modèle de Story Corps, studio mobile vient de naître, aller au-devant des gens, leur tendre le micro, créer les conditions du récit personnel. Voilà, studio mobile, des micros sur le terrain, on aime ça ici. Et c'est grâce à vous que studio mobile est né, Claire Richard et Marianne Bernard. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Merci d'être dans notre studio sédentaire. Story Corps. Alors Story Corps, avant de parler de studio mobile, donc votre projet qui est tout frais, enfin qui a mis un peu de temps à arriver, forcément c'est un projet ambitieux, mais voilà, il existe. Mais avant ça, donc Story Corps, qui est ce modèle américain, Claire Richard. On peut dire ça? C'est plus qu'un cousin, c'est un grand frère, un modèle.
Ah oui, c'est complètement un modèle, puisque moi j'ai habité 4 ans aux États-Unis, là je suis revenue il y a un an. Et j'ai découvert effectivement Story Corps là-bas, puisque moi j'étais partie faire des études de documentaire, tout ça. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce projet que je connaissais pas du tout en France, je me souviens m'être dit que en fait c'était le boulot de mes rêves, que le fait vraiment d'être facilitatrice, c'était ce que je voulais faire. Je trouvais ça très beau. Donc je les ai contactés pour voir si on pouvait travailler avec eux, et ils m'ont dit à ce moment-là qu'ils avaient arrêté d'opérer sur New York, et puisque j'étais à New York, et qui maintenant ils faisaient plutôt des choses itinérantes. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait le créer en France.
C'est là que vous avez commencé à y réfléchir. Mais ça veut dire quoi, facilitatrice? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, alors en fait, les facilitateurs, là, c'est le terme que je traduis du vocabulaire de Story Corps. C'est la personne qui accueille les gens, donc qui se sont inscrits et qui viennent s'enregistrer dans le studio. Qui les met à l'aise, etc. Et puis qui, en fait, va rester avec eux dans le studio, caché, loin de leur champ de vision, et pour vérifier l'enregistrement, quoi, vérifier que tout se passe bien.
Parce que l'idée, c'est que les gens arrivent pour s'enregistrer pour eux, c'est-à-dire comme on pouvait le faire pour quand on se prend en photo, voilà, là, on s'enregistre et on repart avec le son.
Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que vous venez avec quelqu'un de votre famille, un voisin, enfin une personne dont vous voulez connaître l'histoire et vous voulez la garder, et vous repartez avec l'enregistrement.
Mais alors, il y a un point de départ dans Story Corps qui est un peu le traumatisme national, à minima, mais évidemment la matière nationale, du 11 septembre. Et donc, il y a nativement sans doute quelque chose de très américain, non? En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire quand on plonge dans les arcanes et dans les archives de Story Corps, parce que c'est un site, on peut écouter, évidemment. Puis il y a des éléments qui ont été, par moments, diffusés sur la radio publique nationale, la NPR, Marianne Bernard, sur cette idée-là.
Moi, je pense que Claire sera plus à même de répondre là-dessus. Juste pour compléter sur ce qu'elle a dit, c'est sûr que le facilitateur ne pose pas les questions. L'idée, c'était vraiment que c'est quelqu'un qu'on amène et à qui on a envie de poser des questions. Il n'y a pas d'intermédiaire, comme dans un entretien journalistique. Mais c'est vrai qu'on s'était posé cette question, savoir est-ce que ça allait marcher en France. On n'en était pas sûr. Est-ce que les gens allaient réussir à... Plus que se raconter, c'est faire raconter les autres. Et c'est peut-être ça qui nous a beaucoup plu dans cette démarche. À l'heure où aujourd'hui on a beaucoup d'occasions de se raconter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou il y a ce jeu qui est très présent, là, l'idée, c'est vraiment qu'on amène quelqu'un pour lui faire raconter son histoire. Donc c'est plutôt faire parler l'autre que de se raconter soi. Et on s'est aperçu que ça marchait, en fait, même ici. On avait effectivement peur que cette parole soit moins facile. Mais finalement, c'est sûrement lié aussi au médium de la radio, où il n'y a que la voix, et qui est aussi lié au dispositif de la cabine, où il y a quelque chose qu'on propose aux gens qui est assez inattendu, déjà dans le rapport au temps. On les extrait du temps, et donc en fait, ça fonctionne, parce qu'ils sont heureux de prendre ce temps-là de la parole.
Oui, il faut peut-être décrire cette cabine. Le lieu, c'est important, c'est même fondamental. Pour extraire les gens de leur flux quotidien, du temps quotidien, il faut créer un espace pour ça, pour permettre ça. Elle ressemble à quoi, la cabine du studio mobile? Qui veut l'écrire?
Claire Richard. Alors, en fait, c'est vraiment une cabine, donc qu'on a construite. Enfin, je te laisserai, Marianne, revenir un peu sur le chantier, mais qu'on a construite pour qu'elle soit facilement démontable. Donc elle est, en fait, si vous voulez, vous avez une espèce de parallélépipène. Le mot est pas du tout joli, mais l'objet est très joli, donc blanc, avec un toit un peu incurvé. Et le logo, parce qu'on a un logo qui est peint en noir. Donc, et c'est important parce qu'il est visible et il est en même temps très sobre. Et vous entrez, et là, il fait noir. Il y a une petite table avec deux chaises équipées de deux micros, avec une petite lampe, qui est une petite lampe à abat-jour rouge. Et la personne qui fait le facilitateur, donc là, les derniers temps, ça a été moi. Et au fond, avec un casque sur les oreilles, vous accueille, vous installe. On fait 3-4 essais de son, et puis c'est parti. C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste la seule lumière et le seul en fait élément de décor, c'est cette petite table. Enfin oui, la seule lumière, c'est le petit abat-jour et la petite table. Il n'y a rien d'autre. Et je pense que c'est ça aussi qui concentre l'attention, la parole, le temps aussi, parce que du coup, on extrait en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de s'extraire à la fois de l'espace et puis du flux normal et quotidien. Quoi.
Oui, c'est la cabine parenthèse pour tout le monde. Comment elle a été possible, cette cabine, Marianne Bernard? Parce que entre l'idée, l'envie et puis la possibilité de construire un espace comme ça, voilà, il y a plein de choses qui sont autant d'obstacles. Comment avez-vous passé outre?
Ça fait à peu près 2 ans que Claire m'a parlé de cette idée. Il y a eu plein d'hypothèses et puis on a vraiment décidé de faire ça avec les moyens du bord, vraiment la débrouille. Et il se trouve qu'elle a été rendue possible grâce aux ateliers du Théâtre du Soleil où je travaille et grâce aux techniciens du théâtre qui, en récupérant d'anciens décors et puis surtout qui ont dessiné la cabine qu'a décrite Claire. Quand on leur a dit qu'on avait envie de faire ça, c'est vraiment eux qui ont eu cette réponse architecturale. C'est peut-être un trop gros mot, mais
technique.
Et qui ont proposé cette solution technique. Et puis, je pense que aussi pour nous, ce qui était important, c'était qu'elle soit, donc c'est que de la récup et qu'elle est très facilement montable et démontable. Et donc, elle peut se mettre partout. Voilà.
Et ça sent le poney.
Et ça sent le poney comme parce que il y a de la
parce que le sol est une espèce de paille.
D'accord.
C'est du jonc. Exactement.
C'est ça. À mon sens, ça ajoute au côté
à l'intimité. Mais alors comment on sait que le studio mobile est près de chez soi? Comment est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'on doit le guetter et espérer le hasard? Comment ça se passe et comment vous vous organisez? Parce que s'il y a trop de monde, comment on se prépare, soit la personne qui veut parler ou vous, la personne qui a enregistré?
Je pense que la force qu'on a avec Claire, c'est que on avance vraiment en faisant. Donc là, pour l'instant, le studio mobile a été sorti une première fois avec succès. On s'est aperçu que c'était quelque chose qui fonctionnait pas seulement auprès des amis, mais des gens qui passaient et qui étaient intéressés par cette idée-là.
C'était sur les bords du canal de l'Ourcq à Paris.
C'était sur les bords du canal de l'Ourcq à Paris.
Il y a une vingtaine de jours, voilà.
Oui, sur la péniche Adélaïde. On était accueillis par un festival qui s'appelle Marcel Festival. Et donc, c'était aussi la première édition. Donc, tout ça, voilà, c'est des choses qui naissent. Et alors, évidemment, on a maintenant des rêves de où est-ce qu'on veut s'installer. Mais pour cette première édition, oui, on avait fait un système très basique d'inscription sur Internet. Pour l'instant, comme on en est aux prémices, on est simplement présent sur un réseau social bien connu. mais on espère pouvoir développer un site Internet et développer cette communication, puisque effectivement, il faut que les gens s'inscrivent, puisqu'il faut qu'ils aient chacun un temps assez long de paroles.
Il faut organiser ça, mais est-ce que vous savez, Claire Richard, quand les gens s'inscrivent sur Facebook, parce que c'est ça qui s'agissait, de quoi ils vont parler?
Non.
Et avec qui ils viennent?
Non. Enfin, ils peuvent nous l'indiquer s'ils veulent, mais pas du tout. Nous, on a juste leur nom. Et ils s'inscrivent sur un créneau horaire. Là, pour l'instant, on a fait 20 minutes. Aussi parce que c'était le lancement et qu'on voulait voir comment ça marchait. À terme, enfin, je pense que ça va dépendre des lieux, mais je pense que 40 minutes... C'est bien parce que là, on l'a vu aussi, en fait, au bout de 20 minutes, il faut que les gens se mettent en route. Et ils ont beau avoir des idées, parfois ils patinent un peu. Par ailleurs, on a quand même des questionnaires dans la cabine qui servent d'amorce.
Ouais.
En fait, qui sont assez larges. Il y a le questionnaire de Proust, il y a un vieux questionnaire d'actuel qu'on a retrouvé des années 70. Il y a le questionnaire de StoryCorps aussi. Et en fait, là, pour tous les cas, vraiment, à 20 minutes, entre 20 et 23, en fait, les gens, ça y est, sont chauffés, quoi. Pourraient continuer. Et on a fait
quelques... C'est là que ça commence, quoi. En fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, mais c'est comme un entretien, parce que moi, par ailleurs, je suis journaliste, et la plus belle... Enfin, moi, ce que je préfère, et c'était ça aussi, pour ça aussi que j'ai voulu faire ce projet, c'est parce que il y a quelque chose dans l'entretien qui se passe de d'écoute et puis de révélation au sens le plus humble du terme, quoi, de surprise qui vient. C'est la deuxième partie d'un entretien, c'est quand on a déjà dit ce qu'on sait qu'on va dire. Et ça, je pense que c'est possible que sur un temps un peu plus long. Donc, on va aussi développer des sur 40 minutes. Voilà, mais ça, et ça, à chaque fois, il faudra s'inscrire.
Et alors, est-ce que, par exemple, Julia et Zoé s'étaient inscrites avant d'arriver dans le studio mobile?
Non.
Non,
non. Non, elles étaient présentes au festival sur place. Elles ont vu la cabine et elles ont voulu participer.
On les écoute, un extrait de cet entretien. Donc, entretien à brûle pour point.
Improvisé.
Ouais. Entre deux amis.
Entre deux amoureuses.
Ouais, c'est ça.
Mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 2 ans. Et à l'âge de mes 28 ans, ils sont revenus ensemble.
Ah oui.
Et maintenant, ils s'aiment comme deux adolescents.
Et c'était triste quand tu vivais séparée d'un des deux.
Non. Ils m'ont toujours mis un peu à l'écart. Toi aussi, non, tes parents sont séparés.
Oui, mais moi, ils m'ont pas mis à l'écart. J'étais triste.
Et ton père, il te chantait des chansons?
Mon père, il chantait avec nous les chansons des dessins animés qu'on regardait parce qu'il les connaissait toutes par cœur. Et qu'est-ce qu'on chantait souvent? Je me souviens que quand on était petit, il nous faisait surtout jouer. Pas trop. On faisait plein de jeux, il nous a appris à nager. C'est-à-dire qu'il nous a appris à pas faire du vélo parce que là, c'était ma grand-mère.
Mais tu me disais pas que les dessins animés en Italie, les personnages, ils avaient d'autres noms que nous en France?
Si. Parce que nous, on gardait les noms des dessins animés japonais.
Par exemple,
Mila et Shiro, c'est Jeanne et Serge. Mais le générique, c'est le même. Mila et Shiro, due cuori nella pallavolo. Ça, par exemple, mon père, il adorait. Shiro et Mila, amore a prima vista, sempre così. Ça l'a permis, tu vois, Jeanne et Serge, rien à voir. Et du coup, nous, oui, on gardait les prénoms japonais.
Oui, c'était dans le studio mobile il y a quelques jours, finalement, Julia et Zoé qui s'interviewaient l'une l'autre dans cette cabine, voilà, hors du temps et hors de l'espace, en quelque sorte, cette parenthèse que vous organisez, Claire Richard et Marianne Bernard, avec ce studio mobile. L'idée, c'est aussi, finalement, c'est l'interview à portée de tout le monde, parce que ce moment d'interview, quand on la pratique professionnellement, on sait que c'est un moment où se densifie le temps aussi. On pose les questions, en face, il y a une forme d'obligation, plus ou moins, de répondre, mais des choses sortent aussi qui ne sortiraient pas peut-être au café du coin ou à domicile, puisque c'est aussi des gens qui se connaissent, qui sont appelés à s'interviewer les uns les autres. Il y a cette idée de partager le moment de l'interview, l'expérience de l'interview, Claire Richard.
Oui, absolument. Non, absolument, parce que moi, c'est, je crois, ce que je préfère dans mon travail de journaliste. Et parce qu'effectivement, ce qu'on peut nous dire, c'est oui, mais pourquoi j'ai besoin de venir là? De toute façon, je peux aussi parler avec les gens que je connais, que j'aime, dans mon salon, dans ma chambre. Et de même que dans l'entretien, il y a un cadre. Et même si c'est aussi simple qu'un iPhone allumé qui enregistre sur une table de café, en fait, ça concentre la parole et une forme de vérité. De même que ce que les gens disent dans un documentaire, c'est pas ce qu'ils diraient chez eux, mais c'est la vérité, enfin c'est la vérité du cadre, et c'est la force du dispositif, que ce soit celui qu'on propose ou d'autres plus largement, de faire jaillir une parole qui est plus concentrée, peut-être plus, enfin pas plus vraie, mais plus forte, et c'est ça que ça permet de. Et effectivement, il y a l'idée de l'offrir à tout le monde parce que c'est gratuit, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup.
Il faut le dire.
Et c'est vraiment le but premier, c'est-à-dire qu'après il y a des déclinaisons possibles auxquelles on est en train de réfléchir, on pourra en parler. Plus tard, mais c'est d'abord, ouais, c'est ça, c'est d'abord pour ça, pour que les gens puissent pratiquer à la fois la parole et l'écoute, surtout l'écoute.
Ce qu'on comprend, c'est que la question du lieu et finalement de la dramaturgie du lieu, vous parlez du Théâtre du Soleil qui a été un partenaire moteur pour le projet, bah, c'est aussi cette question-là. C'est pas directement du théâtre, mais c'est des questionnements finalement qui sont aussi liés à des questions théâtrales. Marianne Bernard.
C'est ce que disait Claire sur le dispositif et sur la création du lieu.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur cet espace qui est hors du temps. Par exemple, il y a un couple qui est venu et ils s'étaient répartis les rôles. C'était lui qui posait les questions. Et quand ils sont ressortis, ils ont dit, c'est marrant, il y a des choses qui se sont dites qu'on n'aurait jamais pu se dire dans une discussion. Parce qu'on s'était donné une règle d'avance et du coup, l'homme disait, c'est moi qui posais les questions et j'étais obligée de d'écouter jusqu'au bout la réponse, et c'était dans ce sens-là. Je pense qu'il y a ce lieu, peut-être cette dramaturgie, permet de dire des choses qu'on ne dirait pas dans la vie. Et puis peut-être pour ajouter quelque chose sur le décor, je pense que aussi les micros apportent énormément. En fait, on s'aperçoit que les gens se positionnent par rapport à cet objet qu'ils connaissent pas,
ouais.
Puisqu'on a des très beaux micros qui nous ont été prêtés par Arte Radio et qu'on remercie, puisque c'est vraiment grâce à eux que techniquement, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on a fait à la débrouille, donc avec pas de mise de départ.
C'est l'autre pied avec le tel du soleil du studio mobile.
C'est vraiment les deux grands frères et sœurs de cette aventure-là. Et c'est vrai, je pense aussi que ce dispositif technique, en plus de l'espace, apporte énormément. Et ce qui donne, puisque donc les gens repartent avec l'enregistrement, et c'est un enregistrement de qualité avec un son qu'on n'aurait pas si on avait juste posé un enregistreur sur la table.
Oui, alors comme pour StoryCorps, les gens qui viennent parler, qui viennent s'entretenir avec leurs proches, leurs amis, repartent immédiatement avec cet instantané-là. Voilà, sans montage, ils repartent avec le brut, comme on dit.
Oui, absolument. Vraiment, en gros, ça se passe, vous venez, on fait les essais de son, on lance l'enregistrement, vous parlez, vous dites ce que vous voulez. Nous, on n'intervient pas du tout, vraiment pas, on vous regarde même pas, en fait. On est tourné vers le mur et les gens nous disent qu'on nous oublie. Enfin, ça, c'est vraiment crucial pour... c'est-à-dire que les gens savent qu'on est là, puisqu'on est en périphérie, et on revient à cette question du dispositif, mais on n'est pas visible et on n'intervient pas. Et ensuite, quand c'est fini, de la voix la plus douce possible, je vous préviens que c'est fini. Et ensuite, effectivement, on grave les CD tout de suite. En fait, vraiment très concrètement, on prend la carte son, on la met dans l'ordi, on grave le CD. C'est aussi simple que ça, c'est mon ordi, pour l'instant. Et vous repartez avec. Et ensuite, mais vraiment une fois que vous avez le CD dans les mains, on vous demande si vous voulez signer une autorisation.
De diffusion
et d'exploitation. Bah, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut passer ces sons-là, puisque les gens sont d'accord. Mais c'est-à-dire que si vous refusez, ça change absolument rien. Nous, on efface le fichier. Et vous partez quand même avec le CD, c'est pas une condition nécessaire.
Alors, en partant du principe que les gens acceptent, ce qui arrive donc manifestement, qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce qu'il y a cette tendance depuis quelques années, la tendance des histoires vraies, voilà, de comment le documentaire se transforme. Et actuellement, c'est vrai que nous-mêmes ici, dans l'atelier du son, ce sera le cas à la fin de l'émission. Si on a le temps, les histoires vraies de son, voilà, c'est pour cette émission. On fait ça depuis septembre, mais à droite à gauche, il y a des initiatives de ce type-là. Vous en faites partie, vous récoltez des histoires des gens. Est-ce qu'on va les entendre quelque part? Vous voulez les faire entendre à quel endroit?
Alors,
Claire Richard.
On en discute pas mal en ce moment aussi avec d'autres gens qui sont des documentaristes et qui sont intéressés pour nous rejoindre. Donc, parce qu'il y a, juste rapidement, là, il y a quand même une dimension très collective au projet parce qu'on n'est pas que toutes les deux. Il y a donc Cavé qui a travaillé au Théâtre du Soleil qui nous a énormément aidés. Aussi une amie graphiste, Cécile Kojima, qui a fait toute la com. Et en fait, maintenant, c'est plus une forme de collectif. Et donc, dans ce cadre-là, on y réfléchit. Il y a évidemment, donc la première option, c'est des documentaires. On en a discuté avec Arte Radio. Il y a des choses à inventer de ce côté-là. Après, une piste qu'on est en train d'explorer, c'est la question de l'écoute. Alors, c'est pas encore certain, mais on réfléchit à la question de station d'écoute. C'est-à-dire où, en fait, finalement, l'objet serait moins l'objet documentaire que créer, de la même façon qu'on crée des moments de parole, des moments d'écoute à l'extérieur.
Et puis peut-être aussi par rapport à tout ce mouvement, quelque chose que toi, t'as observé à New York pas mal aussi, tout ce mouvement de l'histoire orale. Et c'est vrai qu'à terme, on en a discuté, on n'a pour l'instant pas commencé, mais on est en train de créer un fonds d'archives sonores. Et donc l'histoire orale, c'est cette idée qu'on peut faire l'histoire pas seulement à partir d'archives écrites, mais aussi évidemment d'archives sonores. Mais ça c'est en jachère.
Oui, ça veut dire que Studio Mobile, c'est parti pour durer alors aussi. Vous vous mettez dans une perspective de long terme, je vous ai coupé.
Juste pour préciser que pour l'instant, tous les gens nous ont donné leur autorisation. Il y a eu personne qui... Et vraiment, on est très clair à la fin en disant que c'est absolument pas une condition, c'est vraiment s'ils le veulent. Et pour l'instant, ils étaient même plutôt intéressés et curieux de voir ce que pourrait devenir leur voix, en fait.
Alors bientôt, un site pour Studio Mobile, et pourquoi pas un site mobile, tant qu'à faire. Mais en attendant donc le réseau social bien connu qui commence par Face et qui se termine par Book. Et puis c'est ça un peu aussi la poésie contemporaine, non? Capter ces histoires-là, on peut dire que ce que vous faites là, c'est aussi acte de poésie. Je ne vous demande pas de répondre, c'est juste que c'est ce que je pense. C'est quoi l'histoire de Ingi?
C'est Ingi.
C'est quoi l'histoire de Ingi?
Ingi, c'est une professeure de yoga, entre autres. Une musicienne aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui essaye de nous apprendre à respirer avec ce son-là.
Le son qu'elle a fait donc dans la cabine du studio mobile.
Dans la cabine. Et ça, c'est quelqu'un qui est venu seul. C'est la seule personne qui est venue seule. Et je pense qu'elle avait envie de... Elle est arrivée, elle n'était pas en bonne forme, elle avait envie de dire quelque chose et donc elle a demandé la cabine pour elle seule et elle s'est mise à chanter. Enfin, c'est pas moi qui étais dans la cabine, mais...
Et en fait, là, c'est pareil, c'est la question de... Effectivement, là, on était toutes les deux dans la cabine, mais elle me tournait le dos. Vous allez entendre, mais c'était très, très émouvant. Et pour moi, c'était un beau souvenir, justement, de ce que ça rassemble et ce que ça condense de densité d'émotions à l'intérieur du studio.
Bon, et ben on se quitte avec Ingi, dans la cabine avec Ingi. Merci à toutes les deux, Claire Richard et Marianne Bernard, d'être venues nous parler de ce studio mobile tout frais. Bonne suite, donc, à vous, à bientôt.
Merci à vous.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Tourne une page dans l'Atelier du son ce soir sur France Culture. Il y a quelques semaines, la galerie 24B à Paris accueillait une exposition de radio, des postes de radio, mais aussi des chaînes-hi-fi, des platines disques, des objets sonores qui partageaient tous la particularité d'être de Marc Braun et d'avoir été designé par l'allemand Dieter Rams, 83 ans aujourd'hui, un des plus grands designers industriels. On dit même qu'il est l'un des inspirateurs du design des objets Apple. Donc autant dire qu'il serait l'origine d'une partie du design industriel et culturel en contemporain qui nous entoure. L'exposition a duré peu de temps, elle est terminée aujourd'hui, mais on a eu le temps d'y faire un tour et c'est le commissaire de cette exposition, Grégory Messrier, qui nous accueille.
Là vous avez un lecteur TP1, c'est le premier Walkman au monde. Donc normalement, ça fonctionne à l'horizontale. Vous placez le vinyle sur le petit curseur en métal. Vous soulevez la petite poignée grise, il y a une trappe qui sort et le diamant sort automatiquement et vous pouvez lire, vous balader dans un parc avec votre petit lecteur de vinyle.
C'est un lecteur de vinyle portable, effectivement, qui peut tenir, pas dans la poche, mais qu'on peut avoir la main.
Limite dans la poche, exactement, ouais.
Et ça date de quand ça ?
1956. Donc ça a plus de 60 ans. Et les lignes sont assez, assez nettes, assez pures. Là, vous avez un radio T-1000 qui est une pièce aussi assez emblématique de Dieter Rams. Et ce qui est intéressant, c'est que Jonathan Ive, le directeur de Apple, sont un petit peu inspirés de cette pièce et vous retrouvez un élément d'une tour d'un ordinateur Apple qui est très très semblable à cette radio.
Oui, il y avait des Mac des années début des années 2000 qui reprenaient un
la grille.
Ouais.
Exactement. Ouais. Et notamment, il y a une pièce en bas que je vous montrerai qui est le T3. Qui est une radio avec un bouton central qui est l'ancêtre de l'iPod, qui est assez intéressant.
Alors Dieter Rams, qui est donc le centre de cette exposition dont le titre est « Less but better », donc « Moins mais mieux ». C'est quoi l'histoire de Dieter Rams ?
Alors, Dieter Rams, c'est un architecte de formation qui était designer industriel pour directeur de la création pour la marque Braun, des années 50 à fin 80, début des années 90, et qui a conçu la majorité des produits Braun. Et ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il a inventé, proposé les 10 principes d'un bon design que vous retrouvez sur le mur. Donc principe numéro 1, le bon design est innovant. Principe numéro 2, le bon design fait qu'un produit est utile. Le bon design est esthétique, point numéro 3. Point numéro 4, le bon design fait qu'un produit est compréhensible. Point numéro 5, le bon design est discret. Point numéro 6, le bon design est honnête. 7, le bon design est durable. 8, le bon design est précis jusque dans les moindres détails. 9, le bon design est respectueux de l'environnement. Et 10, le bon design est aussi peu que possible. Aussi peu de design que possible. Donc vraiment, là, c'est l'élément principal de Rams, à savoir less but better. Moins il y a d'éléments, mieux c'est. Plus on simplifie la machine, plus c'est simple pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est ça, maxime.
Alors, il y a un grand élément comme ça, avec de la bande magnétique au-dessus de l'inscription de ces 10 commandements du design selon Dieter Rams. C'est quoi cette pièce-là qui est au mur ?
C'est une pièce vraiment maîtresse. C'est une platine, quoi, magnétophone, tuner radio. Donc c'est la TS-45 TG-60 avec des haut-parleurs L-450. C'est vraiment une pièce sublime que l'on peut accrocher donc à la verticale au mur, tout en aluminium et qui est très radicale et très vraiment dans l'esprit Bauhaus, fin Deuxième Guerre mondiale, l'esprit de Rams, quoi, assez radical.
Grégory Messrier, cette exposition, elle est possible parce qu'il y a des gens qui conservent ces choses-là, il y a des collectionneurs.
Bien sûr, il y a des grands collectionneurs. D'ailleurs, je vais vous en présenter un, Monsieur Yves Couchot. Yves était l'importateur en France de la marque Braun et est tombé amoureux de ses produits. Du coup, il a commencé une collection absolument incroyable et on s'est rencontrés il y a quelques années et on s'est dit qu'il fallait absolument les présenter et faire une exposition.
Bonjour.
Bonjour.
En voyant ces pièces-là, le début seulement, hein, parce que je viens d'arriver, je vois les premières pièces. Vous, qu'est-ce qui fait que c'est Dieter Rams et pas un autre, ou en particulier Dieter Rams, qui fait de vous un collectionneur ?
C'est l'esthétique. C'est l'esthétique qui détermine mon choix. Je suis toujours, malgré les années 68 où je me suis impliqué dans cette marque-là, toujours aussi disons amoureux de cette marque, hein. C'est l'esthétique qui est le point fort, indépendamment de la technique qui est très performante. Et il est vrai que je suis resté fidèle à cette marque.
Yves Couchot, comment vous la qualifieriez, cette esthétique ? Et comment la dire ?
Minimalisme, et puis fonctionnel. Quand on regarde cette esthétique, on n'a pas l'impression que c'est bien, que ça vieillit. Hein. Mm-hmm. Effectivement, c'est toujours actuel. Hein. La preuve, c'est que Steve Jobs s'en est inspiré dans le développement de ses produits.
Hein. Il y a une pièce en dessous, hein, c'est ça ?
Oui,
l'exposition continue. On peut descendre ?
Bien sûr. Mais viens bien, si tu veux. On aura besoin de tes commentaires.
Alors là, on n'est plus dans... Donc on est en dessous, donc on est dans une cave voûtée et on n'est plus devant une vraie fausse étagère de collectionneurs. Il y a une grande table devant nous et plusieurs objets.
Est-ce que vous pouvez nous en présenter un, Yves Couchot?
Grégory et moi, on a deux sensibilités très marquées pour celui-ci, et qui est un appareil combiné, qui a été dessiné dans les années 60, avec l'autre appareil qui, lui, est également actuellement au niveau des collectionneurs, reconnu en tant qu'objet mythique par sa technique, mais surtout par son dessin.
Alors là, c'est bois et métal.
Bois et métal, c'est cela. C'est des appareils emblématiques de la période du début de Dieter Rams, lorsqu'il a commencé à œuvrer au sein de chez Braun, si vous voulez.
Alors ça, donc c'est années 50, parce que c'est vrai que oui. c'est un peu compliqué d'évaluer comme ça à l'œil nu la période. Ça pourrait être années 70 aussi.
Oui, c'est exact. Mais ça a été dédié en différentes versions, mais toujours dans le même approche esthétique. Mais il y a une évolution du produit, mais pas tant que ça. Elle est toujours, pendant une longue période, elle est restée figée telle qu'il l'avait conçue au départ, en y apportant des améliorations de détails, si vous voulez.
Mais c'est du... Par exemple, c'était pareil combiné, là, on peut s'approcher. Donc, il y a un tourne-disque, il y a une radio. Est-ce qu'on peut... Et puis, on peut évidemment changer les différentes ondes. Est-ce que le son était bon?
Oui. Oui, parce que les Allemands, ils étaient très en avance au niveau de la modulation de fréquence. Et tous ces appareils, dans la période 50-60, étaient déjà équipés de l'AFM et qui permettaient de donner une qualité remarquable au niveau de l'écoute radio. Et même au niveau de la platine, ils étaient, c'est d'un très bon niveau. Et tous ceux qui ont la chance d'en avoir un de vers eux se plaisent à reconnaître que eh bien, le son est toujours d'actualité.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, années 50, 60, c'est le tout début de la modulation de fréquence en France, à part France Musique.
Oui, qu'il y avait pas grand mais chose. C'est venu avec un décalage. Je ne veux pas dire qu'il y a eu un grand décalage, mais il y a eu un décalage.
Hein. Alors, à l'autre bout de la table, il y a deux postes de radio dans des couleurs pastel, vert, pastel, bleu, pastel, dont on a l'impression de les connaître aujourd'hui aussi en version contemporaine. C'est disons des esthétiques, petits postes, rectangulaires, parallélépipédiques, pour être juste, et couleur claire, couleur crème, qu'on retrouve aujourd'hui.
Oui, vous avez différentes marques qui réapparaissent sur le marché, qui ont des esthétiques très minimalistes. Je n'ai pas la marque en tête, mais elle est très connue, très, très diffusée. Et c'est des formes d'inspiration de Dieter Rams. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. L'essentiel est fonction, il n'y a pas de superflu, il y a l'essentiel. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que Dieter Rams a créé une sorte de précédent en termes d'esthétique pour ce type d'objet, radio, tourne-disque, objet technologique sonore?
Je faut le croire, parce que je n'ai pas d'autres marques à citer en référence. Il y aurait peut-être BO, mais je ne peux rien dire, puisque moi, j'ai ma sensibilité vers Braun. Hein, alors bon, je ne vais pas faire là.
Mais Grégory Messrier, justement, alors est-ce qu'on peut dire vous êtes le commissaire de l'exposition? Voilà, commissaire de l'exposition. Comment ça se fait qu'on expose des postes de radio dans une galerie d'art?
Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est l'élan que la marque Apple a installé avec son design, sa vision de l'esthétique, qui est extrêmement présente à l'heure actuelle. Beaucoup de gens ont un iPhone dans leur poche, ou un iPod, ou connaissent au moins l'esthétique Apple. Et je pense que beaucoup de gens... par l'intermédiaire d'Apple, on redécouvert Braun. Comme le soulignait Yves, Steve Jobs et notamment Jonathan Ive, le directeur d'Apple, sont très sensibles à l'esthétique de Braun et à la démarche de Dieter Rams. Donc je pense que la génération plus jeune a pu, grâce à l'intermédiaire d'Apple, redécouvrir cette marque qu'il n'a pas pu connaître parce que par rapport, bien sûr, à l'époque et au temps. Et je pense que voilà, cette actualité trouve une corrélation avec la force et l'omniprésence des produits Apple.
Mais à force de faire le parallèle entre la modernité et tous les objets fabriqués par la grosse firme de Californie et puis les objets Braun, il y a plus qu'une inspiration, enfin, il y a quelque chose qui...
Totalement, c'est plus, selon les mots de Rams, c'est un prolongement, on va dire, d'une certaine philosophie, une façon de faire que Braun avait lancé avec Dieter Rams et qui a ensuite été repris ou intégré
par Jonathan Ives et Steve Jobs, mais dans le bon sens du terme, ils sont vraiment, ils mettent un point d'honneur à avoir une vraie ligne. On retrouve vraiment une esthétique très marquée dans les produits Apple, qui peut s'en trouver dans la marque Apple.
Et voilà, vous avez vu, monsieur, vous avez vu les objets designés par Dieter Rams, les radios, les chenifi, Dieter Rams, inspirateur d'Apple, donc, qui était exposé il y a quelques jours encore à Paris à la Galerie 24B par Yves Couchot et Grégory Messrier. On termine là sur le morceau Connections du musicien Electro Scanner. On termine, mais on continue. Hein.
All right, then. Yeah. Yes. Well, and also you might find it easier to write as well, mightn't you? You don't mind waffling? You see, you're fine at waffling. When you say you're not good at it, that's not true.
Scanner qui captait des histoires, des conversations téléphoniques, qui les captait au vol et qui les mixait pour en faire de la musique. Le son et la technologie sonore sont générateurs d'histoires et les histoires sont bien portées par le son et les voix. C'est ce qu'on voit une fois de plus ce soir à travers nos différentes rencontres et entretiens. Et puis il y a l'histoire avec un grand H qui se saisit aussi parfois du son. C'est ce qu'a fait une équipe de chercheurs de l'université de Lyon 2 menée par Mylène Pardoin du département de musique et musicologie donc de Lyon 2. Et Mylène Pardoin est avec nous en ligne. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir. Je vais rectifier la chose. Je ne suis pas au département de musique et musicologie. J'appartiens à l'équipe d'accueil de Passage 21 à Lyon 2.
Très bien. Alors, je me suis trompé et on corrige d'emblée. Par contre, vous me confirmez que vous travaillez en ce moment et même vous aboutissez dans des travaux qu'on peut qualifier de quoi, d'archéologie sonore.
Oui, je travaille sur l'archéologie du paysage sonore, en effet, oui. Et l'équipe, elle est, pour ce qui est du son, elle n'est pas très nombreuse, parce qu'il y a moi et moi.
D'accord, on a donc toute l'équipe au téléphone ce soir, et on s'en réjouit. Alors, ce qui a circulé, même assez vite ces derniers temps, sur les réseaux, voilà, c'est comme ça aussi qu'on s'informe, et même beaucoup, et c'est comme ça qu'on est sensibilisé à certaines questions. Ce qui circule ces temps-ci, c'est le résultat de vos recherches, c'est-à-dire la recréation d'une ambiance sonore de Paris au XVIIIe siècle.
Oui, donc c'est un travail qui n'est pas abouti, hein, qui continue. C'est comme tout travaux de recherche, on poursuit la quête d'indices pour pouvoir améliorer le son, la fresque sonore. Et c'est quelque chose de très 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 long. C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de recherche d'indices et de travail sur le son. Tous les sons qui se trouvent dans la maquette sont des sons réels, ce ne sont pas des sons qui sont créés ou inventés.
Ce sont des sons réels pour recréer l'ambiance sonore. Alors on est près du Châtelet, à Paris, si je ne me trompe pas. On est au milieu du XVIIIe siècle et on est même au mois de juin.
Voilà, on est fin mai, début juin,
ouais.
Avec un ensoleillement qui permet à tout un chacun de ne pas étouffer dans la maquette. Parce que Paris, à cette époque-là, c'est quand même assez angoissant. Les rues sont étroites et hautes et pas très ensoleillées. Donc on a choisi cette époque de l'année avec l'ensoleillement vers les 11h, midi du soleil. On puisse quand même observer la maquette, et c'est important que le visuel soit en adéquation avec le son.
Alors effectivement, vous parlez d'une maquette et vous parlez du visuel. C'est une vidéo qu'on peut voir en ligne, qu'on a mis d'ailleurs sur le site de l'atelier du son. Il y a donc des images. Il y a eu d'abord, est-ce qu'on peut dire ça, d'abord une reconstitution en trois dimensions par l'image avant d'arriver au son?
Alors, dans mes oreilles, j'ai eu le son avant les images. Pour faire percevoir que le travail du son était important, combien il était important, on a dû passer par la phase visuelle, c'est-à-dire recréer le visuel. Et à partir de ce moment-là, le son a pris son importance. Il est dans ce travail-là, dans la maquette, le son n'arrive pas après. il arrive pendant, en même temps.
Vous voulez dire
quand
qu'il a... Qu'il...
Quand on travaille avec les, quand je travaille avec les graphistes, je travaille avec eux.
Ça veut dire qu'il a fallu d'abord passer par... Enfin, le son était d'abord dans votre esprit, dans votre tête, mais il fallait aussi, pour faire comprendre le travail, passer par l'image. C'était aussi une question de mieux communiquer autour de ce travail-là.
Voilà, pour communiquer, qu'on trouve les mêmes... qu'on ait les mêmes sensations, le même ressenti. Je suis passée par l'image. Alors, je sais, ça peut être... assez étrange pour quelqu'un, parce que vous êtes dans le son vous aussi, mais quand on parle avec les graphistes, le son, ça leur parle pas, eux. Donc il faut trouver des mots en commun et des outils, et l'outil passe par le visuel.
Alors Mylène Pardoin, on va se plonger dans le son qu'on entend là depuis quelques secondes, depuis le début de notre conversation, ce son-là que vous avez recréé donc fin mai, début juin, au Châtelet, Paris, milieu du 18e siècle. Manifestement, les mouettes remontaient la scène, ce qui est toujours le cas quand on tend l'oreille. C'était peut-être plus facile de les distinguer à l'époque. Ce travail d'archéologie sonore, Mylène Pardoin, c'est vraiment un travail transdisciplinaire, j'imagine, parce qu'il faut utiliser l'histoire urbaine, l'histoire économique, la sociologie de l'époque, l'histoire des conditions de vie de l'époque. Donc il faut vraiment croiser une multitude de données, non ?
Alors, en fait, c'est un travail qui est pluridisciplinaire, qui associe à la fois des sciences humaines et sociales et ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur, les sciences dures, hein, dans notre jargon. Sans eux, la maquette n'existerait pas et vice-versa. Dans les sciences humaines et sociales, c'est un travail commun entre les historiens, les géographes, les ethnologues, les sociologues, voilà. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qui fait la beauté du projet. On travaille tous. À chaque fois qu'on a un indice, cet indice-là peut servir à la maquette et on le plonge à l'intérieur. Ça permet également de valoriser peut-être des aspects souvent plus difficiles à valoriser vers le commun des mortels, et dans l'histoire, il y a des branches de l'histoire qui sont plus difficiles à apporter au grand public. Et donc là, c'est une valorisation de leurs travaux. Par exemple, tout ce qui est positionnement, placement des artisans dans la maquette, ce sont des historiens qui l'ont fait, qui ont permis ce positionnement en cherchant dans les archives. Je ne fais pas tout moi-même, heureusement. Non, mais... ils me fournissent un certain nombre d'informations.
Alors on comprend, vous êtes en train de mettre en place une forme de modèle. Enfin, est-ce qu'il y a l'idée de la réplication, c'est-à-dire d'imaginer, de rendre possible la reconstitution sonore de lieux pour d'autres époques, pour d'autres villes. Enfin, est-ce que c'est un des points d'horizon de ce projet?
Il va exister, c'est possible. On peut modéliser certains sons de métier, par exemple. On peut se dire, ouais, d'accord, celui-ci, il restera et on pourra l'insuffler dans la maquette. Par contre, il y a des éléments qu'on pourra pas modéliser, qui est ce que j'appelle, moi, l'empreinte sonore d'une ville.
Oui.
C'est son identité sonore. Et ça restera. Mais tout comme la maquette, elle est appelée à générer un modèle de ville virtuelle à déployer, mais ce n'est qu'un modèle de ville sur lequel il faudra arranger en fonction des villes, des époques que l'on voudra restituer. Donc le son a sa spécificité, chaque ville a son identité, il y a des éléments qu'on va pouvoir réinsuffler, parce qu'ils sont pérennes en fait, et que la seule chose sur laquelle je m'attache, c'est de faire une sorte de patrimonialisation du son pour éviter les ruptures générationnelles, parce qu'on a oublié un son.
Donc en fait, vous vous dites que là, ça va servir à se souvenir du son, à se souvenir du son des époques et de sa transformation.
Et à l'issue, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de la morphogénèse de paysages sonores. C'est-à-dire, par exemple, partir de Paris au XVIIIe siècle et de montrer par quartier l'évolution du paysage sonore en fonction des métiers, de la sociologie. Et ça, ça serait vraiment intéressant parce que ça permettrait de voir le cœur de la ville battre réellement.
Le cœur de la ville battre à travers non seulement le son, mais donc les siècles. Donc c'est ça la suite, une des suites de ce projet.
De celui-là, non, d'autres, certainement.
D'accord. Et donc, vous avez présenté ce projet aux rencontres à la Villette à Paris, c'est les rencontres innovatives 2015, c'est il y a une dizaine de jours, et vous allez à Montréal au mois d'août.
Oui, je vais à Montréal au mois d'août.
Pour le présenter, toujours. L'intérêt est mondial pour ce type de travaux.
Oui, alors non, on est vraiment sur une bascule technologique, en fait. Les maquettes de 3D qui, jusqu'à présent, étaient plutôt statiques, elle passe en 4D, c'est-à-dire qu'elle gagne un aspect dynamique. Mmh. Et puis, avec le travail sur lequel je me penche, moi, on verse dans la cinquième dimension qui est le sensoriel. Et ça, c'est important parce que quand on va pouvoir se promener dans ces maquettes, l'aspect sonore apporte des éléments, complète la vision. Sinon, on est orphelin d'un sens.
Vous voulez dire que vous faites ressentir l'histoire, en fait, à travers le son, ou le sens sensitif.
Et ça a beaucoup d'importance pour les jeunes enfants. J'ai fait la fête de la science l'année dernière, et j'avais des classes de CM2. Et je peux vous assurer que les enfants sont sortis. D'abord, ils n'entendaient plus le monde de la même manière. Et puis, d'un seul coup, ils aimaient bien l'histoire.
Voilà les historiens qui se révèlent grâce au son et grâce à vos travaux, Mylène Pardoin. Merci beaucoup de nous avoir dit quelques mots comme ça de ce projet. Encore une fois, on met cette vidéo, cette première maquette, cette première étape dans vos travaux. On la met sur le site de l'Atelier du Son, où chacun pourra profiter de cette expérience donc sensitive, historique, dans tous les sens du terme, et sonore. Merci beaucoup.
Merci.
Une histoire de son, histoire, puisqu'on vous dit histoire ce soir, une histoire vraie de son. On termine souvent l'Atelier du Son par une histoire vraie, racontée par celui ou celle qui l'a vécu ou vu. Une histoire dont le son est le centre. La semaine prochaine, vous entendrez sans doute les vôtres d'histoires de son récoltées depuis quelques semaines, vos propres histoires de son. Mais ce soir, c'est au tour de Grell Marcus, écrivain californien, fameux essayiste de rock, grand spécialiste de Bob Dylan notamment. Il commence l'histoire par « Il était une fois ».
Once upon a time, I was 18 years old.
Il était une fois, j'avais 18 ans.
California, about 25 miles south.
J'habitais à Menlo Park, Californie, à peu près à 25 miles au sud de San Francisco.
San Francisco that New Year's Eve to celebrate New Year's Eve.
Un soir, je suis allé à San Francisco pour passer le Nouvel An avec des amis. Et on a passé une excellente soirée. Vers 1 ou 2 heures du matin, nous revenions à Menlo Park et nous étions sur une route montagneuse. On était assez haut, la lune brillait, c'était assez enchanteur. Et il y avait la radio allumée. Et un son est arrivé du poste que je n'avais jamais entendu avant. Et ça disait:
When I'm thirsty, some sparkling wine will satisfy my need. But right now, baby, it's some of your lovin' I need. And then there was this enormous ghostly chorus, some of your lovin'.
Et il y avait ces chœurs énormes, fantomatiques, et il continuait.
Verse, another verse, and chorus kept coming. It was one of the most startling things I ever heard.
C'était une des choses les plus étonnantes que j'avais pu entendre.
You hear it one time, and you know everything about it.
C'était une de ces chansons que vous entendez une seule fois. Et vous savez tout d'elle. Vous vous souvenez de tous les mots, vous vous souvenez de chaque inflexion de la voix. Ça s'imprime tout simplement dans votre esprit. Je n'avais jamais entendu cette chanson avant. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas comment elle s'appelait. Je pensais qu'elle s'appelait Some of Your Lovin', mais qui sait ? Et je ne savais pas de qui c'était signé. Je me suis dit, ok, je l'entendrai probablement demain. Ça doit être un nouveau disque, mais je ne l'ai plus jamais entendu. Et ça m'a rendu fou. J'ai demandé à plein de gens, mais personne ne la connaissait. Personne ne semblait l'avoir entendue. Et moi, j'arrêtais pas de me la repasser dans la tête. C'était là. Environ six ans plus tard, j'ai écrit un essai. C'était mon premier livre. Le premier que j'ai publié, pas le premier que j'ai écrit. Une série de fragments à propos du rock and roll par moi et mes amis. Et j'avais écrit un texte qui parlait de cet incident, ce tour en voiture, tard dans la nuit, à Nouvel An, et le souvenir d'avoir entendu cette chanson. Je l'ai fait parce que j'espérais que peut-être quelqu'un lirait ça et pourrait savoir ce que c'était. Il me dirait ce que c'était, six ans après. Quand le livre est sorti, ça s'appelait « Rock and Roll Will Stand ». J'en ai vendu assez peu d'exemplaires. Mais j'en ai vendu suffisamment, parce qu'à peu près deux ans plus tard, j'ai reçu un paquet par la poste de la part de quelqu'un qui habitait dans l'Indiana. Il y avait une lettre qui disait « J'ai lu votre livre, j'ai lu le passage à propos de la chanson, et la voilà ». Il m'avait envoyé le disque. C'était Johnny Nash. Ça s'appelait « Some of Your Lovin'», produit par Phil Spector. Et je l'ai mis sur la platine, encore et encore. Et bien sûr, je l'ai toujours. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur YouTube et l'écouter comme ça, il n'y a plus de mystère. À l'époque, il y avait un mystère, un grand mystère. Et voilà, il était une fois en
1963.
Et voilà l'écrivain et rock critique californien Grell Marcus et son histoire musicale d'avant l'internet. Et bien sûr donc Johnny Nash et Some of Your Loving, ce morceau mystérieux. Et voilà, l'atelier du son s'est terminé pour ce soir. Tout coordonné par Inès De Bruyne, tout réalisé par Véronique Lamandour, tout enregistré par Olivier Dupré, Marianne Bernard. Vous aviez une petite précision sur Studio Mobile.
Juste pour préciser, pour qu'on cherche des endroits où poser le Studio Mobile, que ce soit des festivals ou des villes qui voudraient voir d'une autre manière leur territoire.
Il faut passer par le Facebook de Studio Mobile.
Exactement, merci.
Pour aller plus loin, réécouter, podcaster, commenter, tout ça, franceculture.fr. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron, la seule, l'unique. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain. Just anyone can bring me fun with speed. But right now, baby, it's some of your loving I need. Some of
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine prochaine dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, un hommage à Yasar Kemal, une soirée chantier d'Europe enregistrée en public au Carreau du Temple à Paris. Mercredi soir, juillet 2009, multiplié par deux, un projet radiophonique de Gilles Collard et Vincent Dieutre. Un livre à deux mains, deux journaux intimes qui se croisent, se répondent, un mois de juillet de l'année 2009, avec sentiments vagabonds, chansons partagées, voyages pour se retrouver et admiration d'œuvres et de certains êtres. Jeudi soir, l'atelier de création radiophonique « Je n'avais pas la parole » et « Entre-temps » de Gilles Mardy-Rossian. Le portrait d'un homme singulier, Sandro Romney, victime d'un accident vasculaire cérébral. Un micro a été tantôt témoin, tantôt intime, pour révéler les doutes, les espoirs, les échecs, les réussites, le progrès toujours trop lent pour le patient, mais qui sont à chaque fois de grandes victoires pour retrouver la parole. Enfin, vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner fait la part belle à vos histoires de son, celles des auditeurs. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit, et ce sera la dernière. N'oubliez pas de podcaster les ateliers de la nuit, fiction, création, son, tout est sur le site internet de France Culture. Dans quelques secondes, il sera minuit et c'est l'heure des nuits.